Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toujours sur Chahut la radio avec dès à présent votre actu musicale, en compagnie de Sherina, Léna, Michael, Kim, Samy et moi-même votre présentateur Tony. Nous retrouvons Sherina pour vous parler de l'événement Grammys Awards 2024.
Pour les Grammys, alors tout d'abord pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les Grammys Awards. Les Grammys Awards, c'est l'équivalent des Oscars dans le domaine musical, une cérémonie scrutée dans le monde entier, dont les précieux trophées en forme de gramophone font office de référence. Cette nuit du 4 février 2024, la 66e édition s'est déroulée à la Crypto.com Arena à Los Angeles. Les Grammys Awards se sont déroulés dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 février 2024 pour une cérémonie qui célèbre l'omniprésence des femmes au sommet du paysage musical américain. Elle récompense les meilleurs enregistrements, compositions et artistes de l'année, du 1er octobre 2022 en 15 septembre 2023.
Merci beaucoup Sherina. Pour continuer sur le même sujet, Léna, vous vous présentez les gagnants des Grammys Awards.
Awards, la plus prestigieuse cérémonie récompensant les artistes musicaux, s'est tenue le dimanche 4 février 2024. La chanteuse américaine Taylor Swift a décroché le prix de l'album de l'année pour la 4e fois. C'est un nouveau record décroché par Taylor Swift qui entre cette fois dans l'histoire des Grammy Awards, l'équivalent musical des Oscars. La chanteuse américaine a récompensé pour la 4e fois par le prix de l'album de l'année, le plus convoité de la cérémonie. Au total, Taylor Swift a reçu 13 Grammy Awards. Après, Taylor Swift a dit quelques mots. J'aimerais vous dire que c'est les meilleurs moments de ma vie, mais je me sens aussi heureuse quand je termine une chanson.
Merci Léna. Passons dès à présent avec Michael qui va vous présenter les tenues des artistes présents lors de l'événement.
Nous commençons avec Emma Stone qui était vêtue d'une magnifique robe vert clair Louis Vuitton pour recevoir l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Pauvre créature. Ensuite, nous avons Billie Eilish en blazer Chanel ayant remporté la meilleure chanson originale pour le film Barbie. Et c'est Ariana Grande vêtue d'une majestueuse robe rose Giambattista Valli qui lui a remis cet Oscar. Elle était accompagnée de Cynthia Eviro qui portait une longue robe verte à traîne Louis Vuitton. Ensemble, elles font la promotion du film Wicked. Ensuite, nous avons Ryan Gosling qui a performé I'm Just Ken. Il était vêtu d'un custom Gucci noir. Il portait également une montre Tag Heuer. Pour continuer sur le film Barbie, nous avons Margot Robbie en atelier Versace, une très belle robe noire à paillettes. Eva Longoria, la célèbre actrice de Desperate Housewives, était vêtue d'une robe noire en velours Tamara Ralph. Zendaya était également présente pour la promotion du film Dune en Armani privé, une magnifique robe rose à motif palmier argenté. Bravo à eux.
Merci Michael. Pour poursuivre, Kim va vous présenter les Oscars 2024.
La 96e cérémonie des Oscars du cinéma a eu lieu le dimanche 10 mars 2024 au Dolby Theatre d'Hollywood. Avec 3400 places, le présentateur est Jimmy Kimmel, qui était déjà présent en 2023. La diffusion en France était assurée par la chaîne Canal+. Les nominations pour la 96e cérémonie avaient été dévoilées le 23 janvier 2024. Il y a 321 films qui concouraient l'année pour les Oscars, dont 265 dans la catégorie meilleur film. Oppenheimer de Christopher Nolan est le vainqueur de la cérémonie avec 7 statuettes, dont celle du meilleur film et meilleure réalisation. Pour finir, du côté français, Justine Triet a remporté l'Oscar du meilleur scénario avec Anatomie d'une chute.
Merci beaucoup Kim. Pour conclure, nous allons finir en beauté avec Samy, qui va vous présenter la gagnante de la meilleure chanson originale.
Dans la nuit du 10 mars au 11 mars 2024, la 96e cérémonie des Oscars a récompensé Billie Eilish après qu'elle ait chanté sa chanson écrite pour le film Barbie. La chanteuse ne s'attendait pas à avoir un Oscar. Elle était très heureuse et honorée. Elle était très émue. Elle a remercié son frère et elle était très reconnaissante d'avoir gagné. Billie a reçu cette statuette dorée des mains d'Ariana Grande et Cynthia Erivo.
Merci Samy. Donc voici ce qui clôture notre chronique. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt sur Chahut la radio.
Salut les loulous, vous êtes toujours sur Chahut la radio, je te radio qui donne la pêche.
Nous allons vous parler du film Fukushima 50, qui parle de l'histoire du destin tragique d'une ville qui est maintenant surnommée la ville fantôme. Depuis le 11 mars 2011, ce film parle d'un accident nucléaire majeur de niveau 7. Il a eu lieu au Japon, dans la ville de Fukushima, de l'est du pays. Ce film est sorti le 6 mars 2020. Je vais laisser la parole à Clara qui va vous raconter le film.
Il est dit dans le film qui a permis la personne intervenue après l'accident, il y a 6 personnes qui ont reçu des doses de radioactivité supérieures à 250 000. Parmi les employés qui travaillaient ce jour-là, seulement 0,8% du personnel a des doses de radioactivité très élevées qui peuvent causer des cancers très mortels au bout de dizaines d'années. Mais pour le moment, il n'y a eu aucune constatation scientifique. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Fukushima, vous pouvez regarder le film.
Je vais laisser la parole à Melinda qui va vous parler de l'histoire.
L'histoire débute par un tsunami qui est parti sur un séisme qui a entraîné une catastrophe nucléaire. Au moment de cet événement, un des réacteurs du système de refroidissement a cessé de fonctionner, ce qui a causé une surchauffe du réacteur qui a entraîné par la suite une explosion car le système de protection avait cassé. Lors de cet événement, la vague de tsunami a atteint une hauteur de 30 mètres sur certaines parties de la côte orientale, ce qui a provoqué plus de 18 000 morts par noyade. L'explosion de Fukushima a été classée la deuxième plus grande catastrophe de centrale nucléaire de l'histoire, classée au niveau 7, ce qui représente le niveau le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires.
Maintenant, je vais laisser la parole à Sarah qui va vous parler de la deuxième partie de l'histoire.
Fukushima aurait été classé en 3 zones, la zone violet qui est la moins radioactive où les gens ne peuvent pas habiter, la zone jaune qui est autorisée mais les habitants ne peuvent pas vivre car cette zone est en reconstruction depuis 2021. Il y a la zone orange qui est la zone interdite d'accès à part si nous avons une autorisation de la région car elle est extrêmement radioactive. Si on veut y aller, il faut des combinaisons exprès, des masques adaptés. On peut seulement y aller et rester une heure, car si nous y restons plus longtemps, nous pourrons attraper des cancers dus à la radioactivité. Si vous allez dans la zone non autorisée sans autorisation, vous risquez de payer une forte amende qui variera en fonction du temps passé où vous passerez devant la justice japonaise où vous pourrez finir en prison.
Maintenant, je vais laisser la parole à Déborah qui va vous raconter le livre.
Pour en apprendre un peu plus, nous allons vous présenter les 3 tomes du manga nommé Au cœur de Fukushima. Le premier tome est le journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F. Le tome parle de l'expérience réelle d'un travailleur de la centrale qui était présent lors de l'événement. Le deuxième tome parle de la destruction d'une partie de la centrale comme étant la plus terrible catastrophe nucléaire civile qui n'ait jamais frappé la planète. Le troisième tome parle d'un ouvrage à l'écriture neutre qui permet de se faire son propre opinion sur le nucléaire et la vie des ouvriers qui travaillent dans ce milieu. Vous pouvez retrouver les 3 tomes dans toute librairie et aussi sur Internet.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus sur l'histoire, nous vous proposons de vous rendre au CDI de notre lycée afin d'emprunter les mangas pour en savoir plus.
Bonjour, vous êtes sur Chahula Radio. Aujourd'hui, on se retrouve avec Enzo.
Bonjour à tous et à toutes.
Raphaël.
Bonjour à tous.
Et Lucas.
Bonjour à tous.
Dans les studios du lycée Le Hurlevent du Tréport pour parler des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Donc Enzo, on a pu entendre parler que 3 joueurs de foot étaient présents aux Jeux Olympiques, dis-nous en plus.
En effet, nous aurons bien Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud qui seront présents d'après l'équipe 21. C'est l'entraîneur Thierry Henry qui les aurait choisis.
Merci Enzo pour tes informations. On enchaîne avec le point rugby de Raphaël.
Donc je vais vous parler du rugby à 7 aux Jeux Olympiques. Donc l'équipe de France a participé au rugby à 7 lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et pas avec n'importe qui, le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, quitte son équipe pour renforcer l'équipe à 7 de l'équipe de France. Il a intégré facilement cette équipe car sa technique est bonne. Le rugby à 7 se joue en demi-temps de 7 minutes avec 2 minutes de pause contre 80 minutes pour le rugby à 15 avec une mi-temps au bout de 40 minutes de jeu.
Merci Raphaël. Maintenant je vous propose un petit jeu. Ça vous dit ?
Oui.
Oui.
Donc on commence. Combien d'années y a-t-il entre 2 Jeux Olympiques ? 4, 3, 2 ou 1 ?
Moi je dirais 4.
C'est bien Enzo. Raphaël, combien de fois la France a-t-elle organisé les Jeux Olympiques d'hiver ? 2, 3, 4 ou 5 ?
Je dirais 3.
Ça. Lucas, combien d'anneaux y a-t-il sur les logos des Jeux Olympiques ?
5.
Bien. Enzo, dans quel pays sont nés les Jeux Olympiques ? La Grèce, l'Italie, la France ou le Canada ?
Moi je dirais la Grèce.
C'est ça. Qui est le sportif le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques ?
C'est Michael Phelps.
Ouais. Lucas, quel pays a le plus souvent accueilli les Jeux Olympiques d'été ? Les États-Unis, la France, le Japon, le Royaume-Uni ?
Les États-Unis ?
Ouais. Enzo, en quelle année la France a décroché une médaille d'or ? 1952, 1968, 1960 ou 1994 ?
Je sais pas, je passe mon tour.
Raphaël ?
Oui. Je dirais 1994.
Non. Lucas ?
1960.
Ouais. Quel sport a apporté le plus de médailles à l'équipe de France olympique ? L'escrime, le football, l'athlétisme ou le judo, Lucas ?
Je dirais l'escrime.
Ouais. Merci de votre participation, les gars.
De rien, de rien.
On passe tout de suite au point handball avec Lucas.
Donc, moi, je vais rebondir sur le handball aux Jeux Olympiques. Donc, la compétition débutera le jeudi 25 juillet et finira le dimanche 11 août. Donc, la phase finale du tournoi de handball se déroulera sur les territoires de la métropole européenne de Lille à Villeneuve-d'Ascq.
Merci, Lucas, pour tes petites informations. C'est la fin de cette chronique. Donc, merci, les gars. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle émission.
À bientôt.
À bientôt.
Bonjour à tous, je m'appelle Maël et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et je serai l'animateur de ce groupe. Notre sujet sera la Miss France 2021, Amandine Petit. Alors aujourd'hui, voici les chroniqueurs qui m'accompagneront aujourd'hui et ce qu'ils vont chacun dire sur la Miss. Noémie va vous présenter sa biographie en première.
Bonjour, je vous présente la biographie d'Amandine Petit. Elle est née le 30 septembre 1997 à Caen. Elle est âgée de 26 ans et en couple avec Julien Georges depuis 10 ans. Elle est reine beauté française et élue Miss Normandie en 2020, puis Miss France en 2021 lors du centenaire du concours. Elle est 91e Miss France. Elle mesure 1m75, blonde aux yeux bleus. Amandine Petit a sorti un livre en 2023 qui s'intitule « J'ai décidé d'oser » que Lucie va vous présenter dans quelques instants.
Amandine Petit a sorti un livre le 17 mai 2023 qui fait 165 pages au prix de 19,95 €. Elle intitule que qui vous soyez et d'où vous veniez, croyez en vous et suivez vos rêves, rien n'est impossible. Je laisse la parole à Zoé qui va vous expliquer son parcours d'avant Miss France.
Amandine Petit a grandi à Bourg-Aigu, village en Normandie près de Caen, avec ses parents Nathalie et Jean-Luc et sa sœur Pauline. Amandine était une petite fille très timide et introvertie. Amandine Petit a fait des études d'infirmière puis un BTS négociation et relations clients. Puis elle se lance dans un master de management des établissements et structures gérontologiques. En 2022, elle participe à Danse avec les Stars avec Anthony Colette, son partenaire de danse. Elle termine à la 8e place.
Base, pour elle, cela n'était pas un rêve. C'était plus pour montrer à sa famille qu'elle pouvait être moins timide et qu'elle n'était pas seulement cette petite fille qui n'ose jamais rien dire et qui se fait marcher dessus par ses camarades. Julie va terminer avec son parcours en tant que Miss France.
Pour Amandine Petit, l'année est passée beaucoup trop vite. Elle raconte avoir dû parfois un peu partir précipitamment des séances de dédicace en laissant sur la touche certains fans venus la rencontrer. Elle regrette de ne pas avoir pris les gens dans ses bras en raison du Covid-19. Elle dit que toutes les personnes qu'elle a rencontrées, les personnes âgées et qui elle mettait des paillettes dans les yeux, tous les lieux qu'elle a visités, toutes les robes qu'elle a pu essayer, toutes les grandes maisons de couture qui l'ont épaulée, elle dit que tout ça c'était incroyable, elle n'a plus peur de donner son avis, de s'exprimer en public ou face aux caméras. Soigne touche bientôt à sa fin. Amandine Petit passera sa couronne à Miss France 2022 le 11 décembre.
Merci de nous avoir écoutés, j'espère que cela vous a captivé. Passez une bonne journée, au revoir.
Bonjour à tous, nous allons vous parler du sommeil. Tout d'abord, nous allons vous présenter la définition. Le sommeil est un état modifié de la conscience du monde extérieur. Sandy, présente-nous les différentes phases du sommeil.
Pendant le sommeil, il y a plusieurs cycles composés de trois phases principales. Le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Il y a un ordre. L'endormissement et le sommeil lent léger conduisent au sommeil lent profond. En fin de cycle, après un retour au sommeil lent léger, le sommeil paradoxal apparaît.
Valoris, parlons du sommeil lent léger.
Quand le sommeil lent léger, ou également appelé sommeil de stade, arrive, les yeux se ferment et notre respiration se calme. C'est normal si nous avons l'impression de tomber ou d'avoir des soubresauts. Mouvements convulsifs et violents du corps. Cela ne réveille pas le sommeil lent léger est la phase la plus importante. Elle doit donc se passer dans les meilleures conditions.
Que se passe-t-il quand le sommeil lent profond arrive ?
Quand le sommeil lent profond arrive, c'est le moment où l'on est profondément endormi. Dans cette phase, le cœur et la respiration ont un rythme régulier et le corps ne bouge pas. Pendant le sommeil lent profond, il est difficile de se réveiller et le cerveau devient de plus en plus insensible aux stimulations extérieures, bruit, lumière, etc. C'est lors du sommeil lent profond que l'on récupère le plus la fatigue.
Nathan, que se passe-t-il pendant le sommeil paradoxal ?
Pendant le sommeil paradoxal, c'est le moment de la nuit où nous rêvons. Ce nom vient du paradoxe, le signe du sommeil profond sont le corps totalement relâché, intense, et le mouvement oculaire rapide. Dans ces phases, le rythme cardiaque et la respiration peuvent s'accélérer en fonction de ce que nous rêvons. La durée du sommeil paradoxal augmente au cours de la nuit, représente environ 20% du sommeil global.
Petite anecdote, chaque nuit, nous nous réveillons tous pendant quelques instants et plusieurs fois, mais nous n'avons aucun souvenir au réveil. Nous allons donc vous donner 10 conseils pour bien dormir.
Dîner léger, bloquer le soleil.
Ne pas avoir une température de plus de 20 degrés dans la chambre, rafraîchir le lit quand il fait chaud.
Rafraîchir la chambre, se rafraîchir.
Rester hydraté, dormir seul pendant les nuits très chaudes.
Se relaxer pour bien dormir, éviter les écrans avant de vouloir dormir.
Merci de nous avoir appris un peu plus sur le sommeil. Nous remercions Sandy, Valoris et Nathan pour leur intervention et nous vous souhaitons une bonne journée.
Salut la radio, nous allons vous présenter la rubrique Cinéflix. Commençons avec une série qui sortira en 2024, inspirée de Karate Kids. Je vais passer la parole à Ethan.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Cobra Kai. C'est une série de drames, d'arts martiaux et d'action. La série a été créée en 2018.
J'aime l'odeur du karaté en début d'après-midi.
Et oui, les acteurs principaux sont les mêmes que dans Karate Kid, Ralph Macchio et William Zabka, et c'est une série américaine.
Sois sans pitié. Va falloir se bouger le cul, on va pas renoncer sans se battre.
Cobra Kai est la suite de Karate Kid des dizaines d'années après. La rivalité entre les deux dojos, le Cobra Kai et le Miyagi-Do, est plus forte que jamais. Des histoires d'amour, d'harcèlement et des batailles générales sont au rendez-vous dans les 5 premières saisons.
Cobra Kai est de retour.
Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la 6e saison, la dernière saison. Netflix l'a annoncé il y a 8 mois. Suite à la fin de la saison 5, on peut en déduire plusieurs choses. D'abord, les dojos vont participer au plus grand tournoi de karaté du monde, le Sekai Taikai. On a aussi pu voir sur le compte Instagram des acteurs qu'ils s'entraînent très durement au karaté. On peut en déduire que la saison 6 sera plein de combats et de rebondissements. Beaucoup de fans espèrent voir une apparition de Jackie Chan au tournoi, car Jackie Chan a joué dans le remake de Karate Kid en 2010. Pas beaucoup d'autres informations ont été dévoilées, à part que le tournage a déjà commencé et que tous les fans de la série attendent la saison 6 avec impatience. Merci de m'avoir écouté.
Merci Ethan. Nous allons passer à la série qui a autant enchanté et effrayé le public. Et je ne parle pas de Gossip Girl. Je passe la parole à Gaëlle.
Alors bonjour à tous, je vais vous parler de la série Game of Thrones qui est une série drame fantastique américaine créée en 2011 par Debbie Weiss et David Benioff. Les acteurs principaux sont Emilia Clarke, Peter Dinklage et Kit Harington. La série est composée de 8 saisons pour 73 épisodes et il a gagné 18 prix au total. Synopsis, il y a longtemps une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du royaume des Sept Couronnes. La confrérie de la garde de nuit, protégeant le royaume de toute créature pouvant provenir d'au-delà du mur protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Pendant ce temps, complot et rivalité se jouent sur le continent pour s'emparer du trône de fer, le symbole du pouvoir absolu. À ne surtout pas regarder si vous êtes très sensible.
Merci Gaëlle, nous allons passer au film qui a marqué les esprits. Je passe la parole à Justine.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que vous connaissez tous, qui est sorti le 7 janvier 1998 et qui a été réalisé par James Cameron, dont les acteurs principaux sont Leonardo DiCaprio, Kate Winslet et Billy Zane. Je vais vous faire un petit résumé. Donc, c'est un film avec un bateau, plus précisément un paquebot, qui est parti de Southampton le 10 avril 1912. C'était le paquebot le plus moderne et le plus grand du monde. Il est réputé pour son insubmersibilité. C'est bien évidemment le Titanic. 4 jours après son départ, il heurte un iceberg. À son bord, un artiste pauvre, Jack, et une grande bourgeoise, Rose, tombent amoureux l'un de l'autre. Maintenant que l'on connaît toute l'histoire, aimeriez-vous savoir si des membres de votre famille étaient sur ce bateau lors du trajet? Sachez que cela est possible en vous rendant à la Cité de la Mer à Cherbourg. Vous avez la possibilité d'entrer votre nom de famille sur des tablettes où une partie est consacrée au Titanic et ainsi voir si vous avez des membres de votre famille lors de ce voyage.
Merci Justine. Et pour finir, je vais vous parler d'une nouveauté, Vice Versa 2, qui sortira le 19 juin 2024, qui est un film d'aventure, d'animation et de comédie. Fraîchement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu. L'arrivée de nouvelles émotions, joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont longtemps fonctionné avec succès, ne savent pas trop comment réagir lorsque l'anxiété débarque. Et il semble qu'elle ne soit pas la seule.
Bienvenue dans le quartier cérébral, embarras. Oh, on se fait un petit check, non? Oh, non, top là. Oh, t'es le champion du monde de mamouettes, toi. Nous avons une mission à accomplir. Moi, je prépare notre avenir.
Tu veux venir avec nous?
Ils sont trop cool. Mais faut pas qu'elles sachent qu'on attendait que ça. Je m'en occupe.
Je remercie mes intervenants pour ces informations intéressantes. Nous vous remercions de votre écoute. Au revoir.